Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui est un nouveau jour. Il y a des jours qui sont nouveaux et qui sont bons. Il arrive aussi dans notre expérience que les jours nouveaux n'apportent pas pour nous de bonnes nouvelles. L'expérience du chrétien, c'est une marche. Une marche de guerre. Et comme dans la vie du monde, la vie d'un soldat n'est que très rarement couronnée de glorieuses victoires. La grande majeure partie de sa vie en tant que soldat se retrouve souvent dans les camps à l'entraînement ou dans l'amertume et les déceptions de l'attente d'un nouveau conflit cruel. C'est souvent cette réalité à laquelle se retrouve confronté le soldat. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, la réalité d'un soldat est bien différente, énormément différente de la réalité d'un soldat selon la chair pour la guerre dans le monde. Nous sommes en tant qu'êtres humains proie au désespoir. Ce qui veut cela, c'est le choix qu'ont fait nos premiers parents. Et pour dire la vérité, si nous avions été à leur place, il est probable que nous aurions également fait le même terrible choix. Et ce désespoir auquel on se retrouve confronté au sein de notre propre âme est souvent insolvable. Nous ne trouvons aucune solution pour résoudre réellement, entièrement, de manière définitive, le désespoir qui vient nous étrangler par la gorge et nous menace d'être complètement dévêtus de toute attente, de toute espérance. Le début de cette condition de désespoir, nous le trouvons dans la Genèse. Dans Genèse, chapitre 4, versets 7 à 10, nous voyons le début de cette expérience qui est maintenant notre héritage en tant qu'être humain pécheur. Genèse chapitre 4, verset 7. Non, chapitre 3, verset 7. Et après que Adam et Ève aient fait ce qui leur était interdit, nous lisons. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit : Où es-tu ? Et Adam répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. L'expérience d'Adam, c'est l'expérience de chaque être humain. Après être tombé, après leur chute, ils se retrouvaient dans le besoin de se dérober au regard de Dieu. Et leur condition à partir de ce moment-là, c'était une condition où la seule manière de se justifier pour eux, c'était de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils firent juste après cet événement que nous venons de relater, où Adam blâma la femme, ensuite la femme blâma le serpent, et Dieu, dans sa miséricorde, s'adresse ensuite au serpent, au verset 14. Et il dit : Alors l'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Dieu venait de mettre potentiellement fin à tout le désespoir qui a été notre lot depuis Adam et Ève, par cette promesse du verset 15. Il disait : Je mettrai l'inimitié, ce qui est l'inverse, l'opposé de l'amitié, entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité, la postérité du serpent, et sa postérité, la postérité de la femme. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête, et toi, le serpent, tu la blesseras au talon. Et maintenant, pour faire court, nous allons dans l'esprit de prophétie, dans le livre Patriarches et prophètes, et à la page 44, paragraphe 1, nous lisons : La première nouvelle du plan de la rédemption qui parvint à Adam était renfermée dans la sentence prononcée sur Satan au paradis : Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Cette sentence prononcée devant nos premiers parents contenait pour eux une promesse. Tout en prédisant une guerre entre l'homme et Satan, elle déclarait que la puissance du grand adversaire serait finalement abattue. Debout comme des criminels devant leur juge, Adam et Ève attendaient le verdict qui devait les condamner. non seulement à une vie de labeur et de douleur, mais aussi à retourner dans la poussière. Ils entendirent alors ces paroles qui firent naître dans leur cœur une espérance consolante. S'ils devaient souffrir de la puissance de leur grand ennemi, ils entrevoyaient cependant une victoire finale. Donc, au sein du commencement du désespoir, Dieu est venu et a semé la semence d'espérance qui est Christ. Alors que Adam et Ève étaient plongés dans l'abîme du péché par leur propre acte, Dieu est venu directement et a prononcé à leur oreille, alors qu'ils parlaient à Satan, cette promesse qui était pour eux quelque chose qui fit naître dans leur cœur une espérance consolante. L'espérance d'une victoire finale. Que même s'ils étaient condamnés à une vie de labeur et de douleur, et à retourner finalement à la poussière, ils avaient maintenant une espérance. Dieu avait semé l'espérance dans le désespoir de l'homme. Et bien maintenant que on a établi ce fondement d'un sens à la vie que Dieu donne lui-même à l'homme après que celui-ci, l'homme, se soit fourvoyé. On veut maintenant analyser, examiner un peu plus profondément les souffrances du désespoir ou, plus encore, de l'espérance différée auquel maintenant l'homme se retrouve confronté, même avec cette espérance qui lui a été donnée, qui a été semée dans son cœur par la parole. On trouve la définition de ce problème dans Proverbes, chapitre 13, verset 12. Proverbes, chapitre 13, verset 12. L'espérance différée fait languir le cœur. Mais le souhait accompli est comme l'arbre de vie. L'espérance différée. Quand une chose que nous attendons est différée, cela crée un mal-être à l'intérieur de nous. Si, par exemple, un homme convoite une femme et que cette espérance de se voir uni à une femme se voit différée, on dit qu'il a mal au cœur. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu place en nous une espérance, il est possible, si nous ne sondons pas suffisamment la parole de Dieu et que nous n'adoptons pas, à cause de notre négligence, les conseils qui nous ont été donnés dedans, il se peut que cette espérance différée fasse languir notre cœur. Et donc maintenant, nous voulons contempler encore une fois dans l'esprit de prophétie, quelque chose de directement lié à cela. Nous lisons dans le livre Jésus-Christ, à la page 747, verset 3. La scène dont on nous parle ici, c'est la scène du calvaire, alors que Jésus est mené à la place du calvaire. Les espérances des disciples avaient atteint le plus haut degré d'intensité au moment où Christ avait fait son entrée dans Jérusalem. Ils s'étaient serrés autour du Maître, fiers de lui appartenir. Maintenant, dans son humiliation, rempli de douleur et accablé de déception, il marche à distance. Avec quelle exactitude s'accomplissent les paroles de Jésus ? Vous allez tous trouver en moi cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ensuite, on continue. Parvenus au lieu de l'exécution, les prisonniers sont attachés aux instruments du supplice. Les deux larrons se débattent entre les mains de ceux qui veulent les placer sur la croix. Mais Jésus ne fait aucune résistance. Sa mère, s'appuyant sur Jean, le disciple bien-aimé, est venue au calvaire sur les traces de son fils. Elle l'a vu s'affaisser sous le poids de la croix. Elle voudrait soutenir de sa main la tête meurtrie, baigner le front qui si souvent s'est appuyé sur son sein. Mais cette consolation lui est refusée. Et c'est maintenant qu'il y a quelque chose de très important. Comme les disciples, elle avait gardé l'espoir que Jésus manifesterait sa puissance en échappant à ses ennemis. Son cœur chavire en se rappelant les paroles par lesquelles il a annoncé les événements qui se produisent. Elle le regarde dans une attente douloureuse, tandis que les larrons sont fixés à la croix. Va-t-il se laisser crucifier, celui qui a rendu la vie aux morts? Le Fils de Dieu va-t-il subir une mort cruelle? Doit-elle renoncer à croire que Jésus est le Messie? Doit-elle être témoin de son opprobre et de sa douleur, sans même pouvoir le servir dans sa détresse? Elle voit ses mains étendues sur la croix. On apporte un marteau et des clous. Quand les pointes s'enfoncent dans les chairs tendres, les disciples, le cœur brisé, emmènent loin de cette scène lamentable le corps défaillant de la mère de Jésus. Donc vous voyez tout de suite que les disciples avaient des espérances qui se sont vues complètement frustrées. Ils avaient espéré accompagner Christ jusqu'à à son ascension au trône et ils avaient été contraints à devenir les témoins de sa crucifixion. Et dans ce cas-là, leur espérance a été non seulement différée, mais elle a été démolie. Et avant de continuer, on veut tout de suite s'attarder sur ce point-là pour tenter si nos cœurs sont sensibles, pour tenter de tout de suite récolter une leçon face à ces choses que nous lisons ici. Avons-nous une espérance que nous puisons dans la parole de Dieu, mais qui en réalité est le fruit d'une étude qui est incomplète et imparfaite? Les espérances des disciples étaient fondées sur des paroles de l'Ancien Testament qui sont incontestablement bel et bien écrites. Mais leurs espérances étaient fondées sur une lecture incomplète qui n'était pas compréhensive et qui ne prenait certainement pas en compte Ésaïe chapitre 53. Et maintenant, avant même de continuer, avant même d'aller un peu plus loin, est-ce possible que nous, en tant que croyants, nous plaçons nos espérances et nos attentes et que nous mettons notre confiance en Dieu sur ses promesses, mais que par la même occasion, nous manquons de prendre en compte des choses que Dieu a clairement révélées et qui font que si nous les prenions en compte, nous ne pourrions même pas avancer un tout petit peu plus sur ces desseins que nous formons dans notre esprit. Et donc, on va continuer en allant dans Proverbes, chapitre 15 et verset 13. Proverbes, chapitre 15 et verset 13. Le cœur joyeux embellit le visage, mais la tristesse du cœur abat l'esprit. Si nous avons une espérance et que celle-ci est différée, ou bien qu'elle est annulée, notre cœur devient rempli de tristesse et notre esprit est abattu. Et c'est quelque chose qu'on veut considérer parce que nous voulons être sûrs que notre espérance et la bonne espérance, qu'elle n'est pas fondée sur des idées incorrectes. Parce que si elle est fondée sur des idées incorrectes, alors nous sommes destinés à être déçus, plongés dans la tristesse et abattus. Et qu'est-ce qu'un chrétien abattu? C'est une source qui émet des eaux amères. Si vous lisez le livre des Proverbes, c'est partout. que le chrétien qui est abattu, il perd toute son utilité. Parce que Christ a dit lui-même que nous devons, que les disciples de Jésus doivent être le sel du monde. Et si vous connaissez la nature, la propriété du sel, c'est que cela conserve. Cela donne aussi du goût. Un chrétien qui est un chrétien vivant et qui a une odeur, une bonne odeur de vie vivifiante, donnant la vie, doit être pour son entourage, pour le monde, quelle que soit la composition de son entourage, comme du sel. Ça veut dire qu'il doit conserver la vie qu'il possède à l'intérieur de lui-même, doit avoir la propriété de conserver ce qu'il reste de bien dans le monde pour ne pas qu'il se pourrisse, qu'il se gâte. Et aussi, ce sel doit aussi avoir la propriété de donner du goût à la vie des gens qui nous entourent, d'éclairer, d'illuminer leur vie, qu'ils soient prêts à accepter le Sauveur Jésus-Christ ou non. Parce que le cœur joyeux embellit le visage. Et un visage embelli va aussi embellir le visage d'un autre. C'est comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Le reflet de l'eau répond au visage de l'homme. Et c'est une expression, un proverbe pour dire que l'influence que nous aurons sur les autres viendra apporter quelque chose dans leur vie. Et c'est important de préciser que cette influence n'aura peut-être pas de conséquences à salut. Mais Christ n'a pas choisi de démontrer son amour uniquement aux personnes dont il serait certain qu'ils accepteraient le plan de salut de Dieu. Et maintenant, nous voulons aller encore un petit peu plus loin et nous interroger. Quelle est donc notre espérance? Et nous avons, pour examiner ce sujet, de la matière. Nous avons matière à réfléchir dans la parole de Dieu parce que Dieu a enregistré des choses que réellement, si vous y réfléchissez bien, aucun être humain sensé ne voudrait enregistrer soit sur lui-même, soit sur les gens qu'il admire. Mais il a enregistré des choses qui, à un moment donné de l'expérience du chrétien, vont venir servir de secours et qui vont aussi lui servir de leçon pour arriver à comprendre les méandres des propres problèmes qu'il détient à l'intérieur de son cœur, mais qu'il n'arrive pas vraiment à percevoir. Et pour cela, on va maintenant dans Job, chapitre 19, livre de Job, chapitre 19. Et on veut lire à partir du verset 8 pour commencer. Dans son expérience de complète amertume, frustration, de souffrance absolument indicible pour celui qui n'a pas fait l'expérience exacte de Job, Job s'exprimait ainsi. En parlant de Dieu, il a fermé mon chemin et je ne puis passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a ôté la couronne de ma tête, il m'a détruit de tous côtés, et je m'en vais. Il a arraché comme un arbre mon espérance. Et donc réfléchissons à ce que Job vient d'exprimer ici. De quoi Job parle-t-il ici? À quelle espérance peut-il bien faire allusion? Qu'est-ce qui est arrivé à Job? Souvenez-vous, dans le premier chapitre, nous savons que Job a perdu toutes ses possessions, tout son bétail, ses chameaux, ses fils et ses filles. Et par-dessus tout, pour couronner l'amertume complète de sa souffrance, sa santé a commencé à décliner, la maladie s'est saisie de son corps. Et il dit, en parlant de Dieu, il a arraché comme un arbre mon espérance. Est-ce que nous nous sentons comme cela? Est-ce possible qu'à un moment donné dans notre expérience, Dieu permette que nous ressentions que nous ne possédons désormais plus aucune espérance? Je daigne affirmer que oui. Et vous verrez très vite que c'est justifié par ce que Dieu a écrit dans sa parole. Et nous voyons déjà, dès maintenant, que lorsque l'on sonde réellement de quoi nous sommes faits, et c'est exactement l'expérience de Job, de quoi nous sommes faits, quelque chose de bien, de merveilleux et d'excellent peut en sortir, parce que ceux qui s'humilient devant Dieu, qui sont prêts à laisser Dieu les humilier et à ne pas maudire Dieu comme la femme de Job lui avait dit de faire, ceux-là sont ceux que Dieu peut élever. Et pour voir cela en action, nous lisons toujours dans Job chapitre 19, maintenant au verset 23. Il venait de dire que Dieu avait arraché son espérance, il se sentait maintenant dénué de tout, toutes les choses qui peut-être à son intelligence semblaient donner du sens à sa vie, lui avaient été comme retirées, et désormais, ce n'était même plus que l'espérance faisait languir, était différée et faisait maintenant languir son cœur, mais son espérance avait été arrachée. Et il disait désormais au verset 23, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites quelque part. Je voudrais qu'elles fussent inscrites dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent gravées sur le roc pour toujours. » Et réellement, seul celui qui a fait l'expérience de Job peut comprendre ce qui est écrit ici. Et il se peut que nul d'entre nous n'ait fait cette expérience. Mais alors qu'il disait ceci, et que tous ses amis qui se voulaient ses consolateurs n'étaient, pour reprendre ses paroles, que des misérables consolateurs, il voyait désormais autre chose se déployer à son esprit. Il demandait, priait, suppliait Dieu. Maintenant, il n'y a personne sur la terre qui comprend, Seigneur. Écris mes paroles dans un livre et grave-les sur le roc pour toujours. Et que dit-il après cela ? Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il se lèvera sur la terre et qu'après cette peau qui se détruit et de ma chair, je verrai Dieu. L'espérance de Job lui avait été retirée pour que l'espérance divine puisse lui devenir précieuse. Et vous voyez, frères et sœurs, que lorsque l'on laisse Jésus par son esprit intelligent pénétrer nos âmes, il se passe quelque chose. Soudain, la lumière brille dans nos esprits parce que Dieu allume notre chandelle et fait vivre en nos cœurs ce qui seul peut être une espérance digne de notre affection, de notre attente, l'espérance du retour de Christ. C'était l'espérance de Job quand son espérance terrestre lui avait été arrachée. Et c'est l'espérance que Dieu veut nous donner quand nous avons abandonné notre espérance. Et souvenez-vous ce qu'on a lu dans Jésus-Christ, page 747. Les disciples avaient des espérances qui n'étaient pas les espérances que Dieu leur avait données. Et d'ailleurs, la mère de Jésus elle-même avait une espérance qui n'était pas celle que Dieu voulait lui donner. Comme les disciples, elle avait gardé l'espoir que Jésus manifesterait sa puissance en échappant à ses ennemis. Quelle est votre espérance? Espérez-vous que votre expérience sera à un moment donné, si ce n'est pas maintenant, une expérience glorieuse, comme celle qu'attendait Marie, comme celle qu'attendaient les disciples, une expérience où, de manière symbolique, Christ repousserait dans votre vie les ennemis, ses ennemis, que désormais, il deviendrait un roi couronné et non pas un roi crucifié. Quelle est notre espérance? Si nous laissons Dieu examiner nos cœurs, alors nous serons réellement gagnants. Même si cela veut dire que le sens, le sentiment de perte à l'intérieur est comme une agonie. Lisons le psaume 39. Lisons le psaume 39. Et vous savez, cette parole devient si riche quand nous prenons le temps Psaume 39, versets 7 à 8. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Oui, c'est en vain qu'on s'agite. On amasse des biens et on ne sait qui les recueillera. Et maintenant, qu'ai-je attendu, Seigneur ? Mon espoir est en toi. Le psalmiste y reconnaissait qu'il avait espéré quelque chose de vain. Et maintenant, il remettait tout en question et il disait, « Et maintenant, qu'est-ce que j'attends ? Quelle est mon attente ?» Et vous savez, le livre Jésus-Christ, vous savez quel est le nom originel du livre Jésus-Christ ? L'attente de l'humanité. Quelle est notre attente ? Quelle est notre attente, notre espérance ? Le psalmiste disait, « Mon espoir est en toi. » Et ça nous ramène, ça nous dirige directement vers l'expérience des adventistes, le grand désappointement. Lisons-le dans l'esprit de prophétie. On le trouve dans la tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 437. Les adventistes qui attendaient le retour de Jésus à l'automne de 1844 ont été complètement déçus. Et ils ont vécu une expérience qu'il nous faut aussi traverser comme les disciples de Christ l'ont traversé en leur temps. Il nous faut aussi vivre cette expérience pour pouvoir comprendre réellement ce que cela veut dire d'être un adventiste, d'attendre le retour du Christ. Dans Tragédie des siècles, page 437, paragraphe 1, nous lisons, après cette déception, les croyants sincères avaient tout abandonné pour leur Sauveur. Jouissant de sa présence comme jamais auparavant, ils étaient convaincus d'avoir donné au monde l'avertissement suprême. S'attendant à être bientôt reçus auprès de leur divin Maître et des anges, ils s'étaient presque entièrement retirés de la société de ceux qui avaient refusé le message. Ils avaient fait monter vers le ciel cette prière ardente, « Viens, Seigneur Jésus !» Et ils n'étaient pas venus. Reprendre le harnais des tracas et des soucis de la vie, et surtout affronter les lazzis et les railleries d'un monde profane, était pour leur foi et leur patience une épreuve effrayante. C'était l'expérience du désappointement, du grand désappointement. C'était l'expérience des premiers adventistes. Et nous arrive souvent de faire une expérience similaire. Mais lorsque nous affrontons cette expérience, de la déception, des espérances frustrées, nous avons besoin du réconfort que nous offre Dieu dans sa parole, et notamment de celui que l'on peut lire dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. On lit « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, de notre foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est pourquoi considérer celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Donc, face à notre désespoir, Dieu nous présente Jésus et il nous dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi et que on ne devrait pas succomber à notre désespoir, nous ne devrions pas laisser défaillir nos âmes, ce que nous serions tentés de faire, mais de considérer que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Mais il y en a un qui a résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et c'est lui qui devient alors notre exemple lorsque nous sommes en train de recevoir le conseil que Dieu veut nous apporter lorsqu'il désire nous consoler. C'est intéressant parce que lorsque Dieu nous console, il ne nous donne pas une tape dans le dos pour nous dire que nous avons bien fait, mais il nous dit que nous n'avons pas souffert autant que nous le croyons, mais que nous devrions plonger nos regards vers les souffrances de Jésus. Et c'est là qu'il nous propose un soulagement. Dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9, nous lisons le suivant. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui, ce Jésus, qui pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré par sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donc il devient quelque chose pour nous. Il est potentiellement quelque chose pour nous. Il nous suffit de regarder à lui et il devient pour nous l'auteur du salut éternel si nous lui obéissons. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, nous n'y allons pas, mais il nous dit « Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, je viendrai à lui chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et nous avons besoin d'obéir. Et souper avec Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Il ne s'agit pas d'un repas plaisant, mais il s'agit d'un échange, d'un partage de souffrances dans lequel Dieu nous console et nous donne la vie. On peut le trouver dans Marc chapitre 14, verset 32. Marc chapitre 14, verset 32. Il arrive dans le jardin de Gethsémané. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur et fort agité. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. » Il nous appelle à demeurer là et à veiller avec lui. À veiller afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Si nous lisons dans Jésus-Christ, à la page 688, on trouve l'expérience de Jésus. À la page 688, paragraphe 4. Il s'éloigna à quelque distance, pas si loin qu'ils ne pussent le voir et l'entendre, et tomba à genoux. Il sentait que le péché le séparait de son Père. L'abîme était si large, si noir, si profond que son esprit frissonnait. Il ne devait pas faire usage de sa puissance divine pour échapper à cette agonie. En tant qu'homme, il devait supporter les conséquences du péché de l'homme. Il devait subir la colère dont Dieu frappe la transgression. Il avait ce fardeau à porter sur lui. Et nous n'avons pas souffert jusqu'au sang en combattant contre la tentation comme lui l'a fait. Mais il s'offre à nous comme une antidote à notre désespoir en nous montrant son désespoir face au péché qu'il porte pour nous, qui est notre péché et notre souffrance, et il la porte comme si c'était la sienne, de manière à pouvoir nous dire en toute réalité que je connais ce que tu traverses, et regarde-moi parce que j'en souffre et j'en meurs. C'est la consolation que Dieu offre. Il ne frappe pas sur notre dos, mais il attire nos regards vers Gethsémané et la croix, vers l'amour de Dieu en pleine action. À la page 690, au paragraphe 2, on lit « Qu'est-ce que cela veut dire de souper avec Christ ? S'il frappe à la porte, Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous lisons. Le cœur humain a besoin de sympathie quand il souffre. Est-ce vrai pour vous? Est-ce vrai pour moi? Ai-je besoin de sympathie lorsque je souffre? Oui, c'est une réalité profonde. Nous avons besoin de savoir que quelqu'un se soucie et comprend et a de la sympathie. Une profonde sympathie de quelqu'un qui comprend tous les aspects et les recoins de notre souffrance. Nous avons besoin de cette sympathie. Et autrement, les gens, sans cette sympathie, mettent fin à leur jour. Le taux de suicide est si élevé aujourd'hui parce que le taux de sympathie est si bas. Mais en réalité, quand bien même le taux de sympathie venant des hommes serait élevé, il ne répond pas aux besoins intérieurs profonds que nous avons besoin, que nous avons en notre être, de recevoir et de comprendre et de savoir que nous avons dans nos souffrances la sympathie divine. Je continue. Christ éprouvait ce besoin dans les profondeurs de son être. Dans l'agonie suprême de son âme, il s'approcha des disciples avec un désir intense de recevoir quelques paroles de consolation de ceux qu'il avait si souvent réconfortés et protégés au sein de la douleur et de la détresse. Celui qui toujours avait eu pour eux des paroles de sympathie endurait maintenant une agonie surhumaine et il désirait les voir prier pour lui et pour eux-mêmes. Voilà ce que cela signifie de souper avec Jésus. Il désire que nous ayons un sens de l'importance de l'instant et que nous prions pour nous-mêmes avec une instance, une ferveur qui n'acceptera pas de se voir refuser. C'est ce à quoi Jésus nous appelle alors qu'il désire nous consoler et ôter, anéantir le désespoir qui nous ronge et placer en nos cœurs l'espérance qu'avait Job de voir notre Rédempteur, cette espérance qu'avaient les Adventistes de voir le retour de Christ. Et cette espérance, elle est nourrie par cette vision de Jésus à Gethsémané et à la croix. Je continue. Combien la malignité du péché lui paraissait grande. Il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de son propre péché et de garder lui son innocence devant Dieu. Si seulement il se sentait compris et apprécié par les disciples, il en serait fortifié. C'est le cœur de Christ, c'est le cœur de Dieu. Et il sait que nous aussi, nous avons un besoin de sympathie similaire et il est touché face à notre souffrance et il se tourne vers nous. Et son cœur est tout versé pour moi. Et il me demande, n'es-tu pas touché par ma douleur? Y a-t-il une douleur pareille à ma douleur? Regarde ma douleur. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. considère-moi. Et pour conclure, on veut lire le psaume 69. Le psaume 69, verset 2, à partir du verset 2. Nous avons là le langage de Jésus alors qu'il souffre à la croix. Et vous voyez directement que la réelle souffrance de Christ était intérieure. Et la souffrance physique était à peine ressentie. Il est écrit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie. Je suis plongé dans un bourbier profond où je ne puis prendre pied. Je suis entré dans l'abîme des eaux et les flots m'ont submergé. Je suis las de crier, ma gorge est desséchée, mes yeux se consument à attendre mon Dieu. L'espérance différée fait languir le cœur de Jésus-Christ. Son espérance est justifiée. Il s'attend à Dieu, mais son espérance est frustrée pour toi et moi. Ceux qui me haïssent sans cause passent en nombre les cheveux de ma tête. Ceux qui m'attaquent et qui sont mes ennemis sans sujet se renforcent. Je dois rendre ce que je n'ai pas ravi. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Et maintenant, que dit-il ? Que ceux qui s'attendent à toi ne sont pas honteux à cause de moi, Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à mon sujet, ô Dieu d'Israël. Au milieu de sa souffrance, Jésus souhaitait établir un fondement tel que ceux qui croiraient en lui ne soient pas confondus. Il agonisait pour pouvoir pourvoir pour nous un salut éternel. N'êtes-vous pas touché? Y a-t-il une douleur pareille à ma douleur? Et maintenant qu'on a examiné tout ça et que notre cœur est tout tremblant, il y a quelque chose que l'on discerne dans la parole de Dieu qui vient donner du sens et expliquer la raison de nos souffrances qui si souvent nous paraissent inexplicables. Nous le lisons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Et suivant. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisant point avec artifice et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Car, c'est là l'important, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur et pour nous, nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Car Dieu, qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres, est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, en perplexité, mais non sans espérance, persécutés, mais non abandonnés, abattu, mais non entièrement perdu. Nous portons toujours en notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, de sorte que la mort agit en nous et la vie en nous. Mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera comparaître avec vous. Voilà. Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, a désormais brillé dans nos cœurs ténébreux. Et il a brillé et fait resplendir une lumière qui n'est autre que la lumière de la connaissance du caractère de Dieu révélé en la personne de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il nous a été révélé quel est le cœur de Dieu, quelle est sa disposition envers nous, pécheurs, et nous y voyons que Dieu est amour et que son amour ne peut être éteint. C'est un amour qui est plus fort que la mort. Et jusqu'à la mort, il vient nous chercher et dans son agonie, il cherche notre sympathie et dans notre souffrance, il offre sa sympathie à nos cœurs brisés. Et lorsque notre espérance est différée et que nos cœurs seront languissants, il se propose à nous. Il nous donne les feuilles de l'arbre de vie, qui ne sont autres que les versets de la parole de Dieu. Et si dans cette expérience, on ressent que nous sommes en train de mourir pour pouvoir faire et accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, alors nous savons que notre expérience est, comme il est écrit, que nous portons en notre corps la mort de Christ pour que sa vie soit aussi manifestée dans notre corps. Ainsi, de la même manière que Jésus est passé par la tombe avant de pouvoir être glorifié et de monter à la droite du trône de Dieu, nous aussi, nous passons par notre tombeau. Mais, comme il est écrit dans Galates, chapitre 2, verset 20, nous trouvons quelque chose dans cette expérience. Nous voyons que nous pouvons exclamer avec l'apôtre Paul, « D'accord Seigneur, désormais je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Puis ces choses être une source d'inspiration et de réjouissance pour nous. Et quand le désespoir veut encore une fois se saisir de nous, nous attraper par la gorge et affaiblir notre détermination, puissions-nous nous souvenir de Jésus. Et puisse Dieu ramener notre mémoire à cette vision que nous avons eue aujourd'hui de Gethsémané et de la croix et de l'amour que Dieu nous révèle là. Cette sympathie, cette sollicitude pour notre salut qui était à l'intérieur de Jésus et qu'il place dans nos cœurs et il contraint nos cœurs. L'amour de Dieu nous contraint à lui obéir parce qu'il a tant aimé. Alors nous sommes désireux de l'aimer en retour. Que Dieu vous aide et que Dieu nous aide à marcher comme lui-même a marché. Amen.